cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Chotard, le 15 juin 1988.
Nous sommes posés la question, qu'est-ce que c'est que la relation, après avoir regardé ces différents types de relatifs? Il faut toujours avoir devant l'esprit l'universel, l'amitié, le point de vue de l'œuvre d'art. Nous créons des relations, des formes relatives. Vous pouvez prendre aussi la relation du père et du fils dans la famille. La famille est un tissu de relations. Frères et sœurs, c'est relatif. Enfin, ça revient à l'amitié, si vous voulez. Et c'est un caractère particulier, parce que ça s'impose avec nécessité. Je n'ai pas choisi mes frères ni mes sœurs, sauf dans la vie religieuse. Mais même là, ils se sont imposés d'une autre manière. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la relation? C'est que quand l'ami meurt, je ne suis changé en rien et l'amitié disparaît. Quand mon père meurt, je ne suis plus fils et je ne suis changé en rien. La relation universelle, elle ne meurt jamais tant qu'il y a quelqu'un qui pense. Je peux très bien arriver à ne plus pouvoir comprendre ce que c'est que l'universel quand je retombe dans l'imaginaire. Il y a une extinction de la relation d'universel dans le point de vue de la représentation. L'artiste, il fait des relations dans son inspiration, par son inspiration. Quand il n'est plus inspiré, il ne peut que copier. La même chose pour les cours. Quand on est inspiré, on découvre de nouvelles relations. Quand on ne l'est pas, on copie. Qu'est-ce que c'est que la relation? Puisqu'au fond, l'autre disparaît, la relation disparaît et je ne suis changé en rien. D'où la tentation de voir que la relation n'est rien, ontologiquement. Et je vois que c'est la même chose pour la vérité. Je dis Pierre est assis. Pierre se lève. Je continue de dire « Pierre est assis ». Ma proposition devient fausse. Mon affirmation devient fausse. Parce que Pierre a bougé. Et moi, je suis resté toujours le même. La science moderne deviendra fausse au moment de la transformation de notre univers. Patatras, en un instant, toute la physique moderne disparaîtra. Parce qu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il n'y aura plus rien à voir. Pauvre humanité. C'est vrai. Tant que Pierre est assis, je dis Pierre est assis, c'est vrai. Mais si Pierre se lève, je continue de lui tourner le dos. Je dis Pierre est assis, Pierre est assis. Non, il se lève. Votre proposition de vrai devient fausse. Et vous n'avez rien changé. C'est à l'extérieur que ça a changé. Je suis l'ami de Pierre. Pierre meurt. Mon amitié ne s'exerce plus. Donc, il faut bien comprendre la fragilité de la relation. Une fragilité telle que la relation disparaît, même si je ne suis changé en rien. Ça, c'est une chose très, très curieuse. Ça, il faut l'expérimenter. L'autre meurt, l'autre change de situation. Mon affirmation de vrai devient fausse. Mon ami meurt et je ne suis plus l'ami. Mon père meurt et je ne suis plus fils. La relation de filiation disparaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça? Comment ça se fait? Alors que je ne suis changé en rien et que l'amitié me paraît si importante. Vous voyez comme elle est fragile, comme elle est débile, l'amitié. Puisque l'ami disparaît, vous n'avez plus l'ami. Vous ne la possédez pas du tout. C'est pas comme un habitus. Un habitus, tout peut changer, mais vous gardez l'habitus. Ah, l'habitus de science, les sciences expérimentales, c'est différent. Si la réalité disparaît, votre habitude n'aura plus de sens. Mais les mathématiques, le monde peut changer, les mathématiciens demeurent. Alors, est-ce qu'il y aura des mathématiques dans le ciel? Je me pose la question, hein, extrinsèquement, à la philosophie. Le philosophe peut se poser la question. Est-ce que les mathématiques demeureront après la mort? Les sciences physiques ne voient pas très bien. Dans l'Hadès, qu'est-ce qu'il y aura? Fragilité. Première chose que je constate. La fragilité extrême de la relation. Puisqu'elle ne dépend pas que de moi. Elle échappe à mon avoir. Elle n'est donc pas un avoir au sens absolu. Puisque je suis copropriétaire. Mais ce que c'est que d'être copropriétaire, c'est un co-avoir. C'est un avoir avec quelqu'un d'autre, mais en dépendance de l'autre, en dépendance du terme relatif. Et on sait très bien que d'être copropriétaire, hein, c'est pas toujours commode. Ça engendre pas mal de difficultés. C'est pas ce qu'on veut. Fragilité de la relation. Un être très débile. Et en même temps, quelque chose d'extraordinaire. Puisque ça permet d'entrer en relation. Donc de vivre avec une d'autres personnes. Tout le problème des communications. Les communications, c'est des relations. Donc, c'est le problème de l'extension de la personne. Et même certaines personnes ne vivent que comme ça. Selon leur carte de visite, il y a leur nom, puis après, il y a 36 fonctions. Membre de l'académie scientifique, une relation. PDG, une relation. Médecin, relatif, s'il n'y a plus de malade. Architecte, il ne construit jamais. Et ce sont toutes les relations. Et ça, c'est. Il y a une décoration. Croix de la guerre, croix de guerre. Et regardez, hein, toutes les relations que vous ajoutez. Donc ça amplifie, ça extend la personnalité. Mais qu'est-ce que c'est? Un co-avoir qui dépend de la culture dans laquelle vous êtes, de la communauté dans laquelle vous êtes. Et vous, totalement dépendant de reste. Et si l'arbre est vieux, les relations se sont multipliées pendant toute sa vie. Comme je suis heureux de retrouver quelqu'un. Ah, il y a 35 ans qu'on ne s'est pas vu. Et il y a quelque chose qui reste, dès qu'il revient. Trop d'expérience. Comme c'est curieux. Mais à la fois, ce poids extraordinaire de la relation, ce co-avoir, et en même temps, cette débilité, ça disparaît si vite, j'en peux rien. Je peux pas enchaîner hein, tous mes amis. Je peux pas enchaîner toutes mes relations. Je deviendrai un pontife. C'est le pontife qui enchaîne ses amis. Et là, il devient tyran. Il a 36 chiens autour de lui et il ne circule qu'avec les 36 chiens. Et chacun a une petite sonnette. Alors ça fait quelque chose d'extraordinaire. C'est un tyran. Symboliquement, on voit très bien. Mais c'est curieux. Il y a une mainmise sur la relation qui peut faire de vous un tyran. C'est ça la tyrannie. La tyrannie, c'est faire que la relation devienne mon avoir. La relation à l'égard d'un être libre, ça devient mon avoir. Je considère l'être libre comme mon bien. Je considère un patrimoine. Et l'Épître dit, ta case, ce passage de l'Écriture si extraordinaire avec le conseil de Jézabel, qui fait de son roi, de son mari un tyran. Ce que l'autre a refusé à cause de son patrimoine. C'est un patrimoine. Donc c'est pas mon avoir. C'est pas ton avoir? On verra tout simplement. On va te tuer. Le patrimoine disparaît. Une relation supérieure fait dégringoler la relation inférieure. Rivalité de relation. Ce petit passage, c'est très curieux quand vous l'analysez au plan métaphysique. Pas au plan moral, mais au plan métaphysique. C'est une de ces deux relations. Et Jézabel dit, mais tu es un imbécile. Ta relation est bien supérieure à l'autre. Qu'est-ce que c'est d'être roi d'Israël? Exercer une relation de domination. Mais la tyrannie. Alors, qu'est-ce que c'est que la relation? J'amplifie, parce que c'est intéressant de voir tout ça. Voir combien la relation joue dans notre vie humaine. L'obéissance. L'obéissance à un père, l'obéissance à un tyran. Deux relations différentes. Mais c'est encore un système de relations. Relation juste, une relation injuste. Relation qui ne touche absolument pas les réalités extérieures, la relation d'universalité. Et une relation qui dépend des réalités extérieures, l'amitié. La relation de paternité, la relation de tyrannie. Économie, un jeu de relations qui dépend de la valeur de l'argent. Ça ne repose que sur des relations. C'est vain. Ce sont des relations. Rien de substantiel. Tout le domaine, vous voyez, extraordinaire de la relation. Je comprends qu'on est tenté, vous voyez, de voir que tout cela pollue l'homme d'une manière terrible. Jean-Jacques Rousseau. retrouvant la substance à l'état nu. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, je retournerai à la terre. Ça, c'est la substance pure, sans relation. Ah, il y a quand même une relation. Il est sorti du ventre de sa mère. Même là, il y a des relations qui sont comme naturelles avec vous, qui vous collent à la peau. On ne peut pas la supprimer. Vous êtes le fils d'un tel. Ça a toujours été comme ça. C'est extraordinaire. Dépouillement de toutes les relations. La nudité. Un être est nu quand il n'a plus que la relation de filiation. C'est la nudité. Transposé au plan spirituel, la seule relation avec le Père, c'est la simplicité. Au plan spirituel. Il faut toutes les purifications, c'est supprimer toutes les relations inutiles et garder la seule nécessaire. Alors qu'est-ce que c'est que la relation? Ce qui permet de vivre, de bien vivre. S'il n'y avait pas de relation, je ne pourrais pas vivre. Ma vie est liée substantiellement aux relations. Ma personne humaine, mon je suis, est lié substantiellement à toutes mes relations. Autrement, je serais dans une nudité absolue. Une pauvreté totale. C'est curieux. Est-ce que l'éthique n'est qu'un jeu de relation? Esthétique, oui. Mais l'éthique, est-ce que c'est encore qu'un jeu de relation? Le bonheur, l'amitié, la contemplation. Qu'est-ce que c'est que la relation? Donc je pars de cette idée que j'ai expérimentée. Je vois que la relation, à la fois, joue un rôle capital dans ma vie, substantiel, essentiel. Ma vie est un tissu de relations. Et ma qualité de vie consiste à avoir hiérarchisé mes relations. Celui qui n'a rien hiérarchisé dans ses relations, c'est une forêt vierge. Chaque fois qu'il circule, il a 36 chiens derrière lui. C'est une meute. Hurlante. C'est assez extraordinaire. Ça amplifie ma personne et ça ne me touche pas. Donc, ontologiquement, du point de vue de l'être, pas du point de vue de la vie. C'est très intéressant de voir qu'ici, dans l'ordre ontologique, j'ai deux jugements totalement différents du point de vue métaphysique et du point de vue de la vie. Ce qui, ontologiquement, ne m'affecte pas directement. Et ce qui, au point de vue de ma vie, donne toute l'amplitude et toute la richesse à ma vie. Donc la richesse de ma vie va en sens inverse de mon ontologie. La richesse de ma personne va au sens inverse de mon ontologie. Comme c'est important, ça. Oui, ça fait comprendre, hein, beaucoup de choses. Le mépris de la métaphysique, chez certains, ça provient de là. Comment ça se fait, ça? Comment ça se fait, ce déséquilibre propre à l'homme, cette débilité métaphysique et cette richesse au point de vue de la vie de la personne, au point de vue de l'esprit. L'esprit apparaît créateur de création. Et l'être, ça ne change rien à mon être. Et même, au point de vue de mon être, La relation est rivale de ma substance. Ça peut apparaître rivale de ma substance. Puisque ma substance me donne mon autonomie et la relation me met en état de dépendance. Alors, si la relation me met en état de dépendance, elle est rivale de mon autonomie. Bien qu'au terme, c'est donc pas seulement quelque chose de totalement différent, mais une rivalité qui s'introduit dans ma métaphysique par la relation. La relation donc apparaît comme quelque chose qui fait éclater l'être, puisque ça me fait porter vers l'autre en perdant mon autonomie. Alors que la substance me donne mon autonomie. C'est pas contradictoire, je dis tout de suite. C'est rival, mais c'est pas contradictoire. Pourquoi ? Parce que ça ne porte pas sur la même réalité. La relation porte sur l'autre. La substance porte sur moi, mon identité. Alors je vois une opposition, une rivalité possible entre mon identité ontologique, métaphysique, et ma richesse par rapport à l'autre. L'autre apparaît donc au plan ontologique comme quelque chose de tout à fait second. Pauvre métaphysique de l'autre, pour notre cher livre, Lévinas, la métaphysique de l'autre apparaît comme totalement secondaire. Je ne peux donc pas construire une métaphysique de l'autre. Je ne peux construire qu'une éthique de l'autre, mais pas une métaphysique. Puisque l'autre est second. En philosophie première dit, saisir ce qu'il y a de premier. Tout de suite, hein, dès que vous réfléchissez sur la relation. L'autre apparaît toujours comme second, au plan métaphysique. Alors que la substance, c'est mon identité. L'autre est second. Très important, mais second. Alors, à partir de là, vous voyez, une fois que j'ai bien saisi cette rivalité que je porte, je ne peux pas dire qu'il y a en moi deux êtres. Je pourrais dire qu'il y a en moi deux formes de l'être, qui ont des exigences totalement différentes. Je porte donc en moi, non pas l'anarchie de l'être, mais l'analogie de l'être. L'être est autre, l'être est identique à lui-même. L'être est identique à lui-même par la substance, l'être est d'autres par le relatif, par la relation. La relation, c'est donc ce qui va me faire tout autre, par rapport à moi-même, va me mettre entièrement relatif. Puisque si l'autre disparaît, moi je ne disparais pas. Donc il y a en moi quelque chose qui me met tout autre vis-à-vis d'un autre, qui me fait le regarder, qui me met vis-à-vis de lui dans un état relatif. Par rapport à moi-même, j'ai toujours la ressource d'être identique par moi à moi-même, donc de me rattraper dans mon identité. Tandis que par rapport aux autres, je peux être lié à l'autre d'une manière telle que je suis totalement dépendant de lui, à tel point que si l'autre disparaît, je ne suis plus relatif à lui. Donc je perds quelque chose. Par la relation, l'autre a un certain droit sur moi. Je perds mon absolue identité. je m'aliène. La relation source d'aliénation et la substance source d'autonomie. Et la rivalité entre les deux. Ça, c'est descriptif, ce que je vous donne là. C'est descriptif, mais c'est très important. Parce que la relation, c'est le lieu de la description. Donc, une philosophie de la relation sera une philosophie purement descriptive. Il ne pourra jamais dépasser la description. Autrement, elle se nie. C'est le lieu de la description. Une philosophie, au contraire, de la substance est une philosophie du principe et de la cause. Pas de principe dans la relation. Pas de cause dans la relation. Puisque c'est relatif à un autre. Puisque c'est dépendant d'un autre. Et je deviens dépendant d'un autre. Je peux établir des lois, mais pas des principes. Pas des causes. La relation permet des lois. Ah oui. L'intelligence est capable de créer des lois. Mais l'intelligence ne crée pas un principe. L'intelligence découvre un principe. Elle se dévoile pour elle-même un principe. Toute la différence entre le principe et la loi. La loi est un tissu de relations. Et le principe et la cause est un au-delà. Donc seule une métaphysique de la substance permet de saisir les principes et les causes. Tandis qu'au contraire, les relations, les lois, le tissu de relations et de lois, c'est tout à fait différent. J'essaie de comprendre. Il faut donc trouver que l'être peut être tout en étant totalement relatif à un autre. C'est pas contradictoire à la métaphysique de la substance. Mais c'est très gênant. Ça déloge la substance. La substance n'est donc pas un absolu. Absolu. C'est un absolu qui tolère le relatif. Peut-être même source du relatif. Elle n'est pas donc un absolu. Absolu. La substance telle que je l'ai découverte au point de vue métaphysique. C'est important de découvrir ça. Parce que ça me permet plus tard de comprendre qu'une substance peut être créée. Si je ne voyais pas ça, je mettrais très facilement une opposition entre la substance et la création, à la manière de Spinoza. Spinoza n'a donc pas saisi ce que c'était que le relatif. Autrement, il n'aurait pas dit ce qu'il a dit. Il a mis une contradiction entre le relatif et la substance. Il n'y a pas de contradiction. Il y a rivalité dans l'ordre de l'être. Mais la substance peut être sous son relation. Alors, c'est ce point très délicat sur lequel je me penche au plan ontologique, au plan métaphysique, de voir que la substance peut être source de quelque chose qui est comme un anticorps, hein, anti-substance. Le relatif est un anti-substance, puisqu'il est relatif à un autre, tout entier vers l'autre, alors que la substance est vers elle. Source d'autonomie. Quand même très curieux que je suis contient les deux. J'ai une périphérie de mon être. J'ai une périphérie de mon être qui est tout entière tournée vers l'autre. Et donc j'ai une périphérie. J'ai tout un aspect de mon être, tout un aspect périphérique de mon être, qui peut devenir destructif de mon propre être. de ma propre autonomie. Puisque j'ai en moi une source de regard vers un autre. C'est pas contradictoire. Je devrais donc me construire en étant attentif à ça, sans me laisser entièrement envahir par la relation. Si je me laisse envahir par la relation, ma substance sera inhibée, métaphysiquement inhibée. Et je ne serai plus que relatif, sans aucune autonomie. Alors qu'est-ce que c'est que ce virus métaphysique qui est frontière, qui est relatif à un autre? Je crois que quand je suis arrivé là, je peux simplement constater. Il y a, dans l'être, quelque chose qui est tout entier tourné vers un autre, qui boude la substance en la substance. Très curieux. J'ai pas encore cherché pourquoi. Je constate. C'est un fait. Et je vois que je peux très bien être entièrement inhibé par ça. Je vois certaines personnalités qui ne sont plus que relatives. Cette personne est charmante, mais dès qu'on a le dos tourné, c'est un autre qui la bouffe. Elle est entièrement relative. Et elle ne reflète que la dernière relation. On a tous rencontré des gens comme ça. On a cherché, mais en vain, son autonomie. Impossible. Comme des personnes qui ont 36 mains, 36 yeux successifs. Curieuse. Donc, au plan métaphysique, il peut y avoir un être qui est tout entier relatif à un autre. Cet être tout entier relatif à un autre n'existe que par l'autre. Ne s'exerce que par l'autre, n'existe que par l'autre. Il n'existe que par l'autre. Il a donc l'exercice de son être entièrement en dépendance de l'autre. Et par le fait même, il m'aliène en tant que je me regarde comme ayant une substance. Il m'aliène dans l'exercice même de son être. Et qu'est-ce qu'il est? Il est tout entier tourné vers l'autre. S'il est tout entier tourné vers l'autre, il n'a donc rien pour lui. Il sera donc un parasite? Non. Il n'est pas un parasite. Parce qu'il se fonde dans le sujet qu'il transporte vers un autre, qu'il métamorphose vers un autre. Il n'est pas un parasite, parce qu'il a un fondement. Et c'est vrai. Alors là, je m'aperçois que la diversité de ces relations, elles sont diverses en fonction de leur fondement. Elles ont toutes quelque chose d'identique, c'est d'être tournées vers l'autre. Toutes tournées vers l'autre. Donc, amenant une possibilité de rivalité, mais n'étant pas rival au sens absolu, n'étant pas parasite au sens absolu. Parce que, s'enracinant dans l'autre, le parasite ne vient jamais du sujet qui le reçoit. Tandis que la substance n'est pas parasite. Alors, est-ce qu'elle est virus ? Est-ce que le virus n'est-il pas toujours un parasite ? Tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il était virus, c'est pas vrai. Je crois que le virus est toujours parasite. C'est le propre du virus. C'est pour ça que quand vous êtes fragile, vous recevez davantage les virus. La seule manière de lutter contre les virus, c'est d'être fort. Tandis qu'on peut être très fort et être relatif. Donc c'est pas un virus. C'est pas un parasite. La relation se fonde dans le sujet relatif à un autre. Il a un fondement propre. Et donc, il émerge du sujet. Il émerge de lui. Il provient de lui. Il a les apparences d'un parasite, d'un virus. Mais il ne l'est pas. Il émerge du sujet. Par le fondement. Et ceci est particulièrement net dans l'amitié. Je suis l'ami. Donc, je suis l'ami. Et par l'amitié, ma personne devient relative à un autre. Mon autonomie est donc entièrement absorbée par mon ami. C'est terrible. Métaphysiquement, c'est terrible. Au plan éthique, c'est merveilleux. Votre plan métaphysique, c'est effrayant. Par l'amour d'amitié, je suis totalement relatif à l'autre, jusque dans ma personnalité et mon être. L'ami, c'est celui qui est relatif à son ami. Et l'ami est substantiellement ami. Et donc, il y a là quelque chose d'extraordinaire. Que par la relation d'amour, d'amitié, jusque dans ma substance, je deviens relative à l'autre. Alors, vous pouvez crier, vous voyez, au scandale métaphysique. Ça, vous êtes bien obligé de le reconnaître. Donc, au moment où vous atteignez votre finalité dans l'ami, vous perdez votre originalité métaphysique. Je commence à comprendre pourquoi l'éthique peut devenir adversaire de la métaphysique. Au plan éthique, soudainement, ma plus grande autonomie perd son autonomie pour devenir relative à l'autre. C'est le drame. C'est le drame enraciné dans l'autonomie métaphysique. La Moïra se fonde là-dessus. J'ai plus aucune autonomie. Je suis dépendant d'un autre. C'est dramatique, ça. Et dans l'amitié, c'est ce qui se passe. Je t'ai voué fidélité jusqu'à la mort. Dans toute amitié, c'est ce qu'on dit. Je te voue fidélité jusqu'à la mort. Tant que vous n'avez pas atteint ça, vous savez pas ce que c'est que l'amitié, quoi. Vous vous amusez. Votre amitié est de l'ordre utilitaire. Tant que tu m'es utile, je t'aime. Mais le jour où je peux me passer de toi, je t'aime plus. Donc, c'est la proclamation de l'autonomie avant l'aspect relatif vis-à-vis de l'autre. Tandis que quand j'aime vraiment quelqu'un, à la vie et à la mort, je te suivrai partout. Je serai avec toi. Et si tu meurs, je meurs. Le cri du cœur, ça va jusque-là. Et tant que j'ai perdu mon autonomie métaphysique, mon autonomie, quelque chose de relatif. Et c'est là où la Moïra pour avoir une emprise sur moi. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de danger. Je garde mon autonomie. C'est curieux. Alors est-ce que c'est à partir de là que l'être religieux naît? Ou la possibilité d'être religieux? L'amitié serait donc le tremplin qui permettrait à la personne de devenir religieuse. Je pose un problème. Je ne peux pas dire autre chose. Dès que j'entre dans ce problème du relatif. Et je maintiens pourtant qu'au plan de l'être, le relatif est second. Oui, comme quoi le relatif introduit le drame, philosophie nietzschéenne. Je comprends que Nietzsche dit que la métaphysique, c'est un mensonge. Mais pourquoi? Elle maintient l'autonomie de la substance. Or, l'amour d'amitié suprême. Or, l'art fait que tout est relatif. Vous voyez, la philosophie de la relation poussée à l'extrême, elle donne naissance à Nietzsche. Il y a après Hegel. Petit-fils d'Hegel. Qui est ni son père, c'est évident. Paternité poussée à l'extrême, mais le fils, tout le temps dans un état relatif, il empêche d'être une personne humaine. Et donc le fils tue son père pour être autonome. Il faut en arriver là. Je comprends tout Freud. Vous voyez comment le relatif me fait comprendre ces deux grands destructeurs de notre monde moderne, Nietzsche et Freud. Il faut saisir ça. Tant qu'on n'a pas saisi ça, on ne saisit pas Nietzsche et Freud. Tandis que là, on le saisit. Et on saisit bien. Comment il peut y avoir un terrible dilemme qui fait le drame? Alors, est-ce que je vais être anti-Freud, anti-Nietzsche, en disant, tant pis, je sacrifie mon ami et je me sauve. Je sacrifie la dépendance religieuse et je me sauve. Alors est-ce que ce serait le cri des idéologies idéalistes, des idéologies athées? Posez le point d'interrogation. On est à ce seuil-là, on doit se poser. On n'aurait pas le droit de ne pas se poser. Il faut saisir ça. Oui, de l'intérieur. Saisir ce drame métaphysique. Vous voyez, la planche de salut, c'est le fondement de la relation. C'est la relation a un fondement qui lui est propre et que son fondement peut être enraciné dans la substance. Le fondement va jouer un rôle de médiateur, au sens très grand, de médiation, donc d'empêcher le drame d'aller jusqu'au bout de ses exigences de drame, de relativiser le drame, en mettant une harmonie entre l'autonomie de la substance et l'éclatement du relatif. Ce n'est pas embourgeoiser le drame, c'est métaphysiquement saisir la médiation. La médiation va jusque-là. Et c'est ça l'importance du fondement. c'est qu'il met un pont, un lien entre ceux qui réclament d'être tout entier tourné vers l'autre et ceux qui réclament d'être tout entier tourné vers soi. De le fond. À découvrir le relatif, un fondement, la substance par le fondement peut coexister avec le relatif. Coexistence passive.